commencer à comprendre et qui révèle des organisations sociales absolument sublimes, qui révèle des couleurs, des morphologies, des attitudes, presque des sensualités dans le rapport aux graminées qui sont au-delà même de ce que la raison peut imaginer, et croire que pour découvrir cette extraordinaire beauté, cette puissance d'être, ce surgissement de la vie, il faut aller s'enfermer dans des machines propulsées par un gigantesque déluge de feu, de kérosène et d'oxygène liquide pour se retrouver où ? Dans l'espace, c'est-à-dire là où il n'y a rien. Il faut aller se cloîtrer dans un endroit où il n'y a plus rien d'intéressant. Non mais écoutez, ça relève quand même de la bouffonnerie, de la blague et presque un peu de l'abject de le penser. Comment peut-on oser dire ça ? Vous vous rendez compte que nous avons à notre disposition, à nos pieds, la seule planète connue de l'univers qui est habitable. Nous sommes en train de détruire les espèces qui y vivent, ces espèces qu'on ne peut voir que par amour, que par empathie, que par contact, qu'en les observant, et qu'on nous fait croire que c'est en se plaçant à une distance à laquelle on ne peut plus voir un seul être vivant, que l'on prend conscience de l'affaissement de la vie sur Terre. Écoutez, il y a quand même des limites au n'importe quoi.
Ce que vous dites aussi dans votre nouveau texte, c'est qu'il semble, je vous cite, « indispensable aujourd'hui de tenter d'habiter poétiquement la science ». Habiter poétiquement la science, c'est-à-dire Aurélien Barreau.
Alors ça, c'est ce que j'ai à dire de plus sérieux. Et j'insiste sur le mot « sérieux ». Parce que le poétique...
Vous répétez sans cesse que c'est du sérieux et que c'est de la précision la poésie.
Oui, bah écoutez, on a tous nos leitmotifs, que voulez-vous. Les miens ne sont pas des lanceurs SpaceX. Et je pense que c'est important... Bon, soyons clairs. C'est important, la poétique. Ce n'est pas la petite décoration. Ce n'est pas la touche finale. Ce n'est pas la fioriture, comme ça, qui va rendre le texte précieux. Si ce n'était que ça, ça n'aurait aucun intérêt. Le poétique, si vous voulez, c'est la vie en elle-même. C'est le moment où on va s'extraire de ce qui est machinique, de ce qui est reproductible, de ce qui est mesurable, de ce qui est quantifié, de ce qui est utile. La poétique, c'est le reste. C'est tout ce qui n'est pas ce que je viens d'énoncer.
Et donc la science qui va vers la poésie, c'est la science qui va vers la beauté, c'est la science qui s'éloigne de la technique ?
Alors, c'est très difficile à mettre en œuvre. Moi, je suis absolument persuadé aujourd'hui que le seul geste signifiant, bien sûr, il faut consommer moins, produire moins, trier ses déchets, ne pas prendre l'avion et ne pas manger de viande.
Même si vous les critiquez par ailleurs, ces petits gestes.
Voilà, c'est ça, il faut les faire. Enfin, moi, j'essaye à peu près de les faire, sans être, par ailleurs, tout à fait non plus exemplaire, hein, je l'avoue.
D'accord.
Mais très bien, faisons-les. Parce qu'on est des chic types, on est conscientisés, très bien, faisons-les. Mais la seule chose qui soit vraiment importante, c'est de s'interroger sur la direction dans laquelle on veut aller et d'habiter poétiquement le monde, c'est-à-dire d'essayer de s'extraire de l'inertie systémique qui tente à nous faire croire qu'aucun autre réel que celui que nous avons construit n'est envisageable. Et si on prend ceci comme ligne conductrice, ce qui relève quand même du bon sens, la question que je me suis posée c'est, et alors la science elle est de quel côté ? Est-ce qu'elle est du côté du prosaïque, c'est-à-dire essentiellement de la machine de mort, ou est-ce qu'elle est du côté du poétique, c'est-à-dire du surgissement de la vie et finalement de l'espoir, de l'amour et du bonheur, hein. C'est aussi simple que ça, ce sont des grandeurs vraiment de petites philosophies. Et ma réponse c'est que c'est un peu compliqué, c'est un peu entre les deux, il y a une science prosaïque qui est, soyons honnête, l'essentiel de celle que nous pratiquons, qui ne se pose pas beaucoup de questions, qui écrit beaucoup d'articles, qui publie, qui cherche à être compétitive, qui rate totalement les enjeux civilisationnels qui sont les nôtres. Et il y a effectivement une science poétique qui tente de comprendre l'ontologie qu'elle construit, qui essaye d'interpréter ses propres structures, qui relève un peu de ce qu'on pourrait nommer une recherche de la vérité, au-delà simplement de la production de moyens d'anticipation.
Ouais.
Cette science-là existe, mais il n'est pas si aisé de lui donner la primauté.
Et vous invitez la science à trahir. Trahir par amour, écrivez-vous. Alors je me suis demandé, amour pour qui, amour pourquoi, Aurélien Barreau ?
Oui, j'aime bien cette expression de trahir par amour. Elle m'est venue à un colloque sur la déconstruction en hommage du philosophe Jacques Derrida. Finalement... pourquoi trahir ? Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, de reprendre la parole donnée ou les amours promises, ce serait tout à fait regrettable, mais de trahir l'attendu. Vous voyez, je suis physicien, on attend de moi de produire, de mettre en ligne et de diffuser un certain nombre d'articles par an, d'avoir de l'impact dans mon champ disciplinaire. Ça, c'est ce qui est attendu. Et c'est ça qu'il faut trahir. En fait, je dirais presque par provocation, non pas trahir par amour, mais trahir par fidélité. Par fidélité à quelque chose de plus profond que nos communautés, de plus profond que les attendus économiques, de plus profond que ce que nos pères, nos chefs, nos collègues, nos étudiants attendent de nous.
Et c'est quoi ce
trahir
plus profond
par fidélité? Qu'est-ce que la science? Je prends cet exemple parce que nous en parlons, mais on pourrait dire exactement la même chose, hein, du journalisme, de l'écriture ou de la peinture. Qu'est-ce que la science? La science, quand vous expliquez ça à un enfant de 5 ans, vous ne lui dites pas « c'est une activité qui consiste à écrire des articles pour augmenter mon impact ». Non, vous lui dites, la science, c'est une manière de comprendre les lois fondamentales suivant laquelle des petits agrégats de matière s'agencent pour former des grandes structures, par exemple. C'est ça, la science. Mais pourtant, quand on la pratique, c'est rarement avec cet enjeu-là comme point de mire. Et donc, c'est une fidélité à l'essence de notre discipline que nous devrions choisir au prix d'une trahison par rapport à des attendus politiques, civilisationnels et communautaires qui sont bien souvent orthogonaux à cette essence, en quelque sorte, ou à ce fondement.
Et nous allons écouter à présent votre son frisson. Et vous avez opté pour la voix et la parole de celui que l'on surnommait l'Einstein des mathématiques. Il s'agit d'Alexander Grothendieck.
C'est que, effectivement, du système de référence habituel où nous vivons, à l'intérieur d'un type de civilisation donnée, appelons-la civilisation occidentale ou civilisation industrielle, eh bien, il n'y a pas de solution possible. L'imbrication des problèmes économiques, politiques, idéologiques et scientifiques, si vous voulez, est telle qu'il n'y a pas d'issue possible. Même au début, nous pensions qu'avec des connaissances scientifiques suffisamment sophistiquées, en les mettant à la disposition de suffisamment de monde, on arriverait à mieux arriver à une solution des problèmes qui se posent. Nous sommes revenus de cette illusion. Nous pensons maintenant que la solution ne proviendra pas d'un supplément de connaissances scientifiques, d'un supplément de techniques, qu'elle proviendra d'un changement de civilisation. Et nous voyons maintenant notre rôle dans la direction suivante, être nous-mêmes partie intégrante d'un processus de transformation, des ferments de transformation d'un type de civilisation à un autre.
À 1972, c'était il y a donc un peu plus d'un demi-siècle, et on pourrait croire de couverture de votre tout nouveau livre, qu'il vient de vous écouter parler depuis environ une demi-heure maintenant, et vous frissonnez quand vous l'écoutez.
Oui, rendons à César ce qui est à César, hein. La causalité fait que c'est plutôt moi qui serai en train de le lire que l'inverse. Et il faut quand même comprendre de qui on parle, hein. Grothendieck, c'est pas un grand mathématicien, c'est le plus grand mathématicien, au moins du XXe siècle. Son œuvre est extraordinaire, colossale, immense, et elle a même des conséquences philosophiques absolument extraordinaires. Grothendieck, c'est un roi tragique, si vous voulez. C'est un empereur déchu de son propre gré. Et quand on l'entend, il n'y a rien à dire, finalement, tout est là. Il y a la finesse de cette analyse,
et la précision, il faut encore.
Qui pense au-delà de ses intérêts, qui pense au-delà de sa communauté, qui pense précisément au-delà de l'inertie.
Il a trahi.
Et c'est quelqu'un qui, oui, il a trahi pour le meilleur. Il voulait s'extraire du bruit du monde pour entendre les choses parler. C'est extrêmement beau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quelqu'un qui a compris ce que nous n'avons pas commencé encore à percevoir.
Et pourquoi n'a-t-il pas davantage été écouté? C'est ce que je me suis demandé en l'écoutant, forcément.
Oui, mais justement, c'est ça qui est beau aussi, c'est que tout ne doit pas nécessairement être fait dans l'idée d'impacter l'ensemble de la civilisation ou d'avoir des disciples ou d'emporter sur son chemin tout un chacun. Il a vécu en cohérence avec une certaine idée du monde qui était très profonde, qui était très juste. Il disait par exemple que la démonstration mathématique, c'est un peu pour lui le degré zéro de la vérité. Non pas parce que la démonstration est inintéressante, il a passé 19 ans de sa vie à produire des démonstrations, mais parce qu'au-delà de ça, il y a la fécondité. Au-delà de ça, il y a la vie. Grothendieck, c'est un mathématicien qui a choisi la vie. Moi, je trouve ça à pleurer d'émotion.
Aurélien Barraud, vous êtes l'invité de Dans quel monde on vit cette semaine?